de 2022, Michel Bonnet. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci d'être à l'écoute. Bienvenue aux nouveaux auditeurs ou auditrices, Siliana. Alors nous continuons notre approche de la fondation, de la refondation de Cordes en 2022, n'est-ce pas ? Et nous le faisons en réfléchissant, comme d'habitude, à Raymond VII. Vous savez que je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre sur Terre que de Raymond VII. Autrefois, on parlait du bon Dieu, mais moi, à la place, voilà, c'est Raymond VII. Et ce que je voudrais aujourd'hui mettre en avant, c'est un aspect de la vie de Raymond VII qui est essentiel, mais qu'on a souvent du mal à interpréter dans le... pour nous, dans le monde moderne, c'est le fait qu'il a passé sa vie, il a passé son temps à voyager, à courir à droite, à gauche, à travers le comté de Toulouse, à travers la France, à travers l'Europe, et il a été toujours sur son cheval, si on peut dire, et c'était sa politique. Quand il a voulu bâtir un comté de Toulouse, quand il s'est mis au service du comté de Toulouse et au service de, donc de Cordes à l'intérieur, quoi, il a mis ça au centre de sa politique. Bon, c'était l'habitude, on le sait, des princes, des rois, de voyager, d'aller d'un château à l'autre, mais là, lui, c'est plus que ça, c'est un peu différent. Il passe son temps littéralement à aller d'un village à un autre village, d'un château à un autre château, etc., etc. Et il a découvert cette façon de faire de la politique. Il l'a découvert non pas par éducation, non pas parce que son père l'a formé comme ça, mais parce que il a fait cette expérience dont on a parlé je ne sais combien de fois sur CFM, sur les émissions de CFM, parce que il a vécu l'expérience de Beaucaire. Beaucaire, où il est né, ça c'est tout à fait, je dirais, presque secondaire, hein, mais où il est né une deuxième fois à Beaucaire, lorsqu'il a décidé, après le concile de Latran, de ne pas se laisser écraser par l'Église et par les croisés, mais de réagir, d'entrer en résistance et d'attaquer en quelque sorte le pouvoir de Simon de Montfort à un endroit tout à fait particulier qui était le château de Beaucaire. Et là, justement, qu'est-ce qu'il a fait à Beaucaire ? Bon, vous le savez, je reviens pas là-dessus en détail, mais il a assiégé les croisés qui étaient dans le château de Beaucaire, mais il l'a fait en se faisant assiéger lui-même volontairement par Montfort et son armée. Et il a tenu le coup jusqu'à ce que Montfort abandonne, et donc il a gagné cette bataille. Or, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qui a été bouleversant pour lui, auquel il ne s'attendait pas du tout, c'est que, enfermé à l'intérieur des murailles de la petite cité de Beaucaire, qui est à peu près la superficie, à peu près aujourd'hui, à l'époque, de notre cité de Cordes, en haut, hein, le haut du Pêche de Mordagne, vous voyez. Donc c'est pas très grand. Hein. Et là, enfermé avec ses soldats, avec quelques dizaines de seigneurs, des soldats, avec la population, et il a passé là presque 3 mois. Quoi. 3 mois, jour et nuit, sans pouvoir sortir, hein, enfermé, etc. Vous voyez un peu cette expérience qu'il a faite de vie en intimité totale, en promiscuité avec les gens, parce que il faut pas imaginer Beaucaire à cette époque-là avec des maisons comme celles qu'on a ici à Cordes, avec des belles maisons en pierre, etc. Non, c'est, il y en avait quelques-unes, mais très peu. C'est en torchis, en roseau, en branchage, en bois. C'est-à-dire que des maisons où on entend tout ce qui se dit à l'intérieur, on passe devant par les fenêtres ou par les trous qu'il y a, on voit ce qu'il y a à l'intérieur, bref, on vit les uns sur les autres. On passe devant une maison, on sent les odeurs du poisson grillé ou d'une ratatouille ou d'autre chose, quoi. On entend tout ce que les gens se disent, etc., etc. Et ça, ça a été nouveau pour lui. Lui, il est, à cette époque-là, il a 16, 17 ans, hein, et il a vécu jusque-là dans la cour du comte de Toulouse. Et un peu avant, entre la mort de Pierre II d'Aragon à la bataille de Muret et le concile de Latran, et pendant quelques temps, il est parti en Angleterre pour se protéger de Simon de Montfort, désormais de Simon de Montfort. Donc, il a vécu dans un milieu fermé, très protégé. Et avec, ça lui a donné une éducation particulière, l'éducation nécessaire à un comte d'un grand comté comme celui de Toulouse. On va s'arrêter une minute.
CFM Corde, trois lettres, un esprit, le rock.
Michel Bonnet. Nous parlons donc de Raymond VII, qui a fait une expérience tout à fait exceptionnelle en vivant en, en intimité profonde pendant assez longtemps avec la population de Beaucaire. Et là, il a découvert qu'il y avait à l'intérieur de cette population, quand on la regarde vivre de l'intérieur, quoi, il y avait une conception du collectif, de ce qu'on appelle le collectif, de ce qui appartient en quelque sorte à la communauté, qui forge en quelque sorte la communauté. Et il a découvert que ce collectif, c'était pas quelque chose qui venait du comte de Toulouse, dans le cas de Beaucaire par exemple, qui venait d'en haut, qui venait du... si on écoutait l'Église, qui vient du ciel, qui vient de Dieu sur les hommes, qui descend sur nous, même si c'est surtout quand c'est des richesses, quand c'est des bienfaits, quand c'est la vie divine, etc. Non, il a découvert autre chose, il a découvert que ce qu'on appelait le bien commun, ce qui faisait la richesse du comté de Toulouse, c'était quelque chose qui était fabriqué, qui émanait des gens, qui était dispersé à l'intérieur des populations, à l'intérieur de chaque personne. Il a découvert que l'essentiel dans la responsabilité d'un homme politique comme un comte, ou comme lui, futur comte de Toulouse, hein, l'essentiel, c'était les relations horizontales des gens entre eux, et du comte avec eux aussi. Et jusque-là, on l'avait éduqué, il avait été éduqué, et tout l'avait porté à croire que ce qui faisait la collectivité, ce qui faisait la richesse commune d'une population, c'était donné par le haut, par le comte, les richesses du comte de Toulouse, etc., etc. Vous voyez, et on lui disait qu'il était représentant de Dieu et que c'est lui qui donnait la vie. Vous savez, cette idée qu'on a eue à une époque où le roi pouvait faire des miracles, il guérissait les malades, etc., etc. Et donc lui, il a découvert que ce bien majeur qu'il y avait à la population de Beaucaire à laquelle il participait, c'était cette lutte contre Simon de Montfort, contre les croisés, et qui est arrivée à la victoire. Une victoire, on ne pouvait pas imaginer plus important que ça, qu'on puisse battre littéralement le patron de la grande croisade contre les hérétiques, Simon de Montfort, le nouveau comte de Toulouse, qui avait envoyé en exil son père Raymond VI. Vous voyez, et là, donc ça l'a transformé, ça s'est pas fait en un seul jour bien sûr, et ça s'est pas fait aussi clairement que je le dis, mais il a découvert ça, il a découvert que finalement sa victoire, c'était la victoire des Jean de Beaucaire, et que cette richesse qui était la sienne maintenant, d'être le nouveau, on pourrait dire, le vainqueur de Simon de Montfort, c'était la richesse, ça venait de la résistance des Jean de Beaucaire. À partir de ce moment-là, il s'est dit que il fallait absolument qu'il se replonge en permanence dans cet échange entre lui et les populations, entre les populations et lui. Bref, il s'est vu progressivement, je vous dis ça, parce que on le voit maintenant avec du retard, du recul, il l'aurait pas expliqué sans doute comme ça. Mais voilà, l'important c'était ça. Et donc il s'est mis à voyager. Il a organisé sa politique, non pas en mettant des sénéchaux, des belles, il en a mis, bien sûr, il a mis des responsables, mais il passait son temps à aller d'un château à un autre, d'un hameau dans un autre, d'un village dans un autre. Et pourquoi faire ? Pour parler avec les gens, pour partager leur vie, vous voyez ? Se déplacer comme cela continuellement. Si on prend, par exemple, les chartes qu'il a signées, vous savez que chaque fois qu'il y avait un événement important, bon, il était obligé de consigner ça sur une charte, et il l'a signé, il mettait son sceau, et le notaire met toujours le lieu où ça s'est fait. dans le château de tel endroit, chez Rieux, à tel endroit, dans le porche de l'église de tel couvent, etc. Donc, on sait tous les lieux où il a passé, on n'en a pas beaucoup de chartes, parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu, qui ont été brûlés, etc. Mais enfin, on en a quand même entre aux alentours de 400. Vous voyez, donc ça fait quand même une liste de villages et de lieux. Et quand vous mettez ça sur une carte routière comme on les a aujourd'hui, c'est effarant le maillage que ça représente sur l'ensemble du territoire. Et on se dit, mais il vivait véritablement avec les gens. Et il était constamment en train de partager avec les gens. Et pourquoi cela? Non pas pour leur donner à chaque fois des privilèges, parce qu'il n'y avait pas que ça à faire, hein, mais pour, dans cette rencontre, se retrouver dans ce bouillonnement intérieur qu'il avait vécu à Beaucaire, ce bouillonnement où les gens lui disaient des choses, lui racontaient leur vie, leurs difficultés, leurs problèmes, les seigneurs, les femmes des seigneurs, les poètes, les troubadours, mais aussi les paysans du coin, les gars qui allaient à la chasse avec lui, les forestiers, vous voyez, tout ce morceau de vie qui était là comme dans une marmite quand on fait une bouillabaisse ou un plat comme ça qu'on fait mijoter pendant des heures. Voilà, il fait mijoter ça à l'intérieur de lui-même et il vient apporter quelque chose puisqu'il a des possibilités, il a la richesse du comté à sa disposition, il a un pouvoir politique, il a un pouvoir militaire, il a le pouvoir judiciaire, il faut qu'il remette un peu les choses au point, etc. Mais de l'autre côté, il reçoit énormément parce que en même temps, il vient pour qu'on lui paye les impôts, faut pas oublier, c'est pas rêvé. Mais il a une particularité aussi, c'est que les impôts qu'on lui paye, il les utilise sur place, à manger avec les gens pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, avec ses gars à lui, quand il vient avec 20, 25 chevaliers, ça débite, oui. Voilà. Donc il y a tout un partage, c'est bien cet échange, il participe à un échange qui est extrêmement important, et pour lui, parce que ça le dynamise, et pour la population, parce que ça l'aide un peu à être un peu plus en forme pour vivre. Donc, voilà, cette part de la vie de Raymond VII qui est basée sur un échange, sur le partage. On écoute une minute de musique pour se reposer.
CFM, CFM Radio.
Oh,
2022, Michel Bonnet. Donc, je disais que Raymond VII avait organisé sa politique au service de la population d'Occitanie, au service du comté de Toulouse, sur cette habitude de voyager, de visiter toutes les communautés, tous les lieux où il y avait des gens qui dépendaient de lui, si on peut dire. Et cela pour les rencontrer et pour partager avec eux. Et cette notion-là de partage est extrêmement importante. Il laissera des traces là-dedans. On ne va pas en parler aujourd'hui, parce que ce n'est pas le plus important, mais ça laissera des traces. C'est que, de même que lui, il trouve une dynamique, une richesse à partager, à discuter, à échanger la parole, évidemment, essentiellement, avec les gens, il pense que, quand il n'est pas là, ça doit continuer. Et c'est là-dessus qu'il se base pour soutenir l'évolution de ce qu'on appelle le consulat. C'est-à-dire que il ne veut pas laisser dans chaque ville, dans chaque cité, dans chaque agglomération de personnes, parce que des villes, il n'y en avait pas, il ne faut pas s'imaginer, il n'y avait pas des villes en pagaille, mais enfin, il y avait des petites cités, des hameaux, des villages, des gens autour d'un château, etc. Donc, ces petites communautés-là, ils pensent que leur avenir, leur développement, l'agrandissement de leurs biens communs, de leurs richesses, elles passent par, justement, cet échange entre les gens qui sont là. Et ça, pour que ça marche, il les pousse à s'organiser et donc il pousse à ce que émergent quelques personnes qu'on appellera avec le temps les consuls, des gens un peu plus respectés que les autres parce que ils ont de l'expérience, parce qu'ils sont sérieux, etc., etc. Bon, peu importe les diverses raisons. Il y en a parce qu'ils ont l'épée facile, d'autres pour d'autres raisons. Mais voilà, il va mettre une marque de ces passages, de son passage dans la promotion du consulat. Et ça, c'est nouveau par rapport à son père et surtout par rapport à son grand-père. C'est eux, ils se battaient contre le consulat. Pour, vous savez, une sorte de lutte de pouvoir entre les consuls et la communauté menée par les consuls et puis eux, comtes, justiciers, etc. Et lui, il le conçoit complètement différent, justement parce qu'il a découvert cette force qui est à l'intérieur de la population et donc il en fait un atout et il va... Plus la ville est grande, plus le consulat sera puissant. Le consulat de Toulouse a une armée qui peut se permettre d'aller attaquer le consulat de Gaillac, si bien que il faudra que le comte de Toulouse se pointe en disant hey, « Eh les gars, ça va pas, non vous avez beau être consul de Toulouse, vous n'avez pas le droit d'aller attaquer les consuls de Gaillac, et vice-versa, etc. » Donc, c'est pas des mots en l'air, vous voyez, ce sont pas du tout des mots en l'air. Et vous voyez, on sent à travers ça, je m'exprime trop mal, bien sûr, c'est dommage, mais j'espère que vous sentez à travers ça qu'il y a quelque chose de révolutionnaire chez Raymond VII. En tous les cas, moi, ce qui me plaît chez lui, c'est cet aspect révolutionnaire, c'est que il conçoit son pouvoir comme, en quelque sorte, émanant de la dynamique même de la population, et il laisse des traces de son pouvoir, bien sûr, mais des traces de ce dynamisme qui est à l'intérieur de la population, parce qu'il faut le faire vivre, parce qu'il faut le nourrir, il le laisse à travers cette structure du consulat. Et je trouve ça extrêmement intéressant, et vu que on essaie de regarder un peu comment on pourrait refonder Cordes, puisque c'est le but, Cordes 2022, on peut se dire que ça peut nous aider d'avoir une idée comme cela. C'est de concevoir le bien de la communauté cordaise, ou le bien du pays cordais, ou le bien de la France, puisqu'on est quand même en France, vous voyez, ce monde nouveau vers lequel on tend, vers lequel il va falloir aller, comme non pas une richesse, comme un gâteau qu'il faut se partager, qui arrive sur la table, et puis voilà. Alors il y aurait la force nucléaire, il y aurait les énergies renouvelables, etc. Et on puise là, dans cet assemblage de richesses, cette énergie fossile dont on parle, on y puise. Alors les puissants, ils en ont une grosse part, et les faibles, ils en ont une petite part. Et l'idée qui viendrait... qui peut venir justement de cette histoire, si on la prend au sérieux, c'est de se dire que c'est une erreur de croire que ça existe déjà, que c'est une richesse qui est donnée à l'humanité par la planète Terre, disons, pour aller vite, puisqu'on est dans ce monde de renouveau climatique, etc., qui serait donnée à l'humanité pour qu'elle se le partage. Non. Non. Ça n'est pas donné à l'humanité pour qu'elle se le partage, c'est que tous les êtres vivants qui sont sur ce territoire, que ce soit les êtres humains ou les animaux, ou même les coronavirus à de droite et de gauche, hein, non, on est tous là, et c'est ces forces ensemble qui forgent la planète, la vie de la planète, la richesse de la Terre, qui forme véritablement le cosmos. C'est le résultat de nos échanges, de notre façon de vivre entre nous. Et vous voyez comment ça ne concerne pas le président Macron ou que l'ONU, vous voyez, ou que il s'agit pas pour nous, là, dans ce qu'on dit, il s'agit pas pour nous d'imaginer un nouveau Raymond VII qui serait à la tête, en tant que maire de Cordes, ou en tant que président de la 4C, ou président de la République, et qu'il faudrait qu'il imite Raymond VII. Non, c'est pas du tout ça. C'est souhaitable. Mais ça nous concerne à chacun de nous. C'est chaque membre de la communauté humaine, chaque membre de notre communauté cordaise qui peut jouer, si on peut dire, les nouveaux Raymond VII, qui peut imiter Raymond VII en concevant sa participation à la marche de l'humanité, à la survie ou à la vie du cosmos sous la forme d'un échange. Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je reçois? Et bon, si je viens, on fait ensemble une pizza, moi j'amène des œufs, et puis Nicole, elle amène de la farine, et Jacques, il va amener autre chose. Quand la pizza est cuite, moi je vais pas aller chercher où se trouve l'œuf que j'ai amené. C'est tout mélangé, on peut pas le savoir, mais on le partage. Et on va le partager tous ensemble. Et c'est à cela, c'est cette vision des choses qu'il nous faut avoir. Et je voudrais prolonger cette réflexion avec un autre apport. Je le disais la dernière fois, c'est qu'il faut voir vivre les gens en chair et en os. Et donc, on va voir comment un brave gars de cette époque-là, je disais Guillaume Donadieu, que vous connaissez peut-être pas, mais on va en parler, comment il voyait cette façon de vivre de Raymond VII. On s'arrête un moment.
CFM Cordes, CFM, l'esprit rock.
Accord 2022, Michel Bonnet. On continue donc à réfléchir sur un élément essentiel de la reconstruction de Cordes ou de ce monde nouveau, de cette planète nouvelle qui est en train de se faire au milieu des changements climatiques, du salut de la biodiversité, etc., etc. Et on essaie de faire ça avec, en imitant, en tenant, recevant des leçons de Raymond VII qui concevait la richesse comme, non pas comme un bien qui est donné et qu'on se peut se partager, mais comme quelque chose que l'on construit les uns et les autres ensemble dans l'échange. Et ce que je trouve intéressant, c'est de regarder un brave gars du coin, du temps de Raymond VII, qui s'appelle Guillaume Donadieu. Vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est pas certain. Il a une particularité, c'est que, bon, il a véritablement vécu pendant les 50 ans où Raymond VII était vivant. Donc, ils sont rigoureusement de la même époque. Et il était de la région ici. Il était un paysan qui était à côté de Puy-la-Roque. Vous voyez, Puy-la-Roque, c'est à côté de Caylus, à une dizaine de kilomètres de Caylus quand on va vers Cahors. Bref, peu importe. Il vivait dans un petit hameau qui était là, donc un brave gars, totalement à l'opposé même, je dirais, de Raymond VII en termes de notoriété, si on peut dire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est un inconnu, voilà. Et on a une chance, c'est que j'hésite à dire le mot parce que de suite ça va créer des images qui sont pas du tout bonnes, mais enfin tant pis. Bon, on a une chance, c'est que l'Église a estimé que c'était un cathare, un hérétique, et donc elle a mis le grappin dessus, elle l'a interrogé, et on a une partie de sa vie qui est racontée par le, qui est écrite par le notaire de l'Inquisition. Donc on connaît un peu sa vie. Et sa vie dite par lui, en résumé, bien sûr, oui. Et c'est extrêmement intéressant pour deux raisons. Une, c'est que c'est, à la différence de Raymond VII, c'est véritablement un document, vous voyez, écrit, manuscrit, que l'on peut tenir à la main. C'est pas de l'élaboration philosophique, comme je le fais assez souvent. Oui. Non, c'est vraiment la parole de ce gars-là, et un gars donc très simple, un paysan tout à fait simple, vous voyez, que l'on a. Et d'une part, un deuxième point, c'est que ce gars-là, il est venu à Cordes, des séries de fois, et il a parlé de Cordes, qui il a rencontré à Cordes, qu'est-ce qu'il y a fait, etc. Et donc, il a fait ça, figurez-vous, d'après ce qu'il dit à l'Inquisition, c'est qu'il est venu à Cordes en 1224. Peut-être c'était 1223, peut-être c'était 1225, parce que vous savez que les années se comptaient pas exactement pareil à cette époque-là, et puis lui, il n'avait pas une montre Rolex au poignet pour se balader. Et donc, voilà. Mais c'est extrêmement intéressant, c'est que donc c'est le plus vieux document qu'on a, le plus vieux manuscrit mentionnant la ville de Cordes. Et au moment de la fondation de Cordes, vous voyez, juste après 1222. Et donc, c'était extrêmement intéressant, et c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. J'adore Guillaume Donadieu, j'adore lire ça. C'est pas très marrant de lire les 30 pages que représente son interrogatoire en latin par les inquisiteurs, mais vraiment, ça nous apporte beaucoup. Or, justement, si on voulait résumer Guillaume Donadieu, comme j'ai essayé de résumer tout à l'heure, je viens de résumer Raymond VII, on peut employer exactement le même mot, c'est qu'il est toujours en voyage. C'est un gars qui ne tient pas en place pour une raison très simple, c'est que pour faire face à l'Inquisition, pour que les cathares, les communautés cathares qui avaient dispersé à travers le coin, l'Occitanie, enfin un peu partout, vous voyez, les bons hommes, les hommes, les femmes qui formaient les communautés cathares avaient besoin de créer des relations entre eux ou entre elles, Et ça, ils ne pouvaient pas le faire, on ne pouvait pas voyager comme on voulait. C'est, l'Inquisition était là, enfin, ou tout au moins les croisés, et ensuite l'Inquisition était là. Et alors, ils ont choisi un certain nombre de volontaires qui avaient, dont le seul travail, c'était de passer d'une communauté à l'autre pour donner des nouvelles, pour dire un tel est en train de mourir à tel endroit, un tel autre a été condamné, là on a reçu d'Italie un manuscrit, ça vaut la peine d'y faire attention, et puis les bons hommes à Cahors ont besoin un peu d'argent, allez, donnez-moi de 3 sous et je vais les porter là-bas. Vous voyez, il est un agent de liaison. Il n'existe, si on peut dire, que pour ça. Et lui, sa façon à lui d'être croyant, d'être cathare, d'être à la disposition de la communauté, d'être à la disposition de l'émergence d'un monde nouveau, parce que c'est ça finalement l'essentiel du mouvement cathare. On va en reparler, on en reparlera d'ailleurs, il faudra en reparler plusieurs fois, mais cet essentiel, c'est justement de partir à la rencontre, à la recherche, à l'éclosion d'un monde nouveau, un peu comme nous aussi on le rêve. Aujourd'hui par rapport à accord de 2022, par rapport à l'avenir, etc. Donc ils avaient besoin de ce partage, de quelqu'un qui aide à faire ce partage. Et Guillaume, son travail, c'est ça. Alors, parce que vous savez que la particularité du mouvement cathare, c'est exécrable ce mot cathare, mais je peux pas faire autrement que de l'employer, vu que tout le monde l'emploie. Mais essayez de pas mettre par derrière les images que l'Église nous a mis dans la tête, et surtout l'Inquisition nous a mis dans la tête. Bon, qu'est-ce qui se passe à l'époque de Raymond VII et de Guillaume Donadieu, et donc ici dans notre région? Il se trouve que dans chaque village, quand Cordes sera créé, mais avant que Cordes soit créé, à Millars, à Vendrac, à Virac, à un peu partout, à Vaour, où vous voulez, il y a des petits groupes de 2, 3, quelquefois 4 femmes qui se réunissent de temps à autre. Ça, c'est une particularité et c'est tout à fait exceptionnel. Et ces femmes-là, qui sont du coin, dont les unes sont parentes avec les autres, il y a une maman avec sa fille, et puis avec sa petite-fille, par exemple, ou une cousine, enfin, vous savez ce que c'est, les relations familiales, surtout à une époque où on voyageait beaucoup moins qu'aujourd'hui, donc on n'était pas très très dispersés, et donc, voilà des femmes qui avaient besoin de se retrouver entre elles. Pourquoi faire ? À la fois pour se protéger, parce que la situation de femme n'était pas évidente, bien plus dangereuse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle en France de la violence faite aux femmes, des viols, etc. C'est pas nouveau, et c'est, je dirais, presque certainement encore plus terrible à l'époque de Raymond, à cette époque-là. Et donc, ces femmes avaient besoin de se protéger, et elles avaient besoin aussi, beaucoup, de protéger leurs filles. Les garçons, ils étaient avec les hommes, ils apprenaient à aller à la chasse, ils apprenaient à travailler, etc., etc. Mais les filles, elles, on pouvait pas les laisser n'importe comment dans la nature. La nature, c'est-à-dire dans le jardin, dans les bois, avec 2, 3 moutons, enfin, etc. Il fallait les protéger tout le temps. Et donc, les protéger, ça voulait dire les avoir à côté de soi, bien sûr, dans sa maison le plus possible, mais également les protéger en les éduquant, en leur donnant des conseils sur la façon de vivre, sur tout ce qui fait l'éducation d'une fille, que ce soit à cette époque-là ou aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on passe beaucoup par l'école, encore que l'école, comme éducation à la vie, c'est pas très au point, j'ai l'impression. Mais à cette époque-là, donc, les mamans éduquaient leurs filles dans tous les domaines. Et ces femmes, elles avaient une particularité supplémentaire, c'est qu'elles possédaient une maison, ou tout au moins, la maison où elles habitaient appartenait à leur mari, appartenait à leur famille. Mais très souvent, ça se trouvait qu'elle elle possédait cette maison. Pas une grande maison, pas forcément une grande maison, hein, juste une pièce pour vivre, mais voilà. Et donc, elle vivait là. Ça ne veut pas dire qu'elle vivait là en permanence. Elle se retrouvait quelquefois pendant une semaine, deux semaines, 15 jours, quelquefois quand l'une d'elles venait juste de mettre au monde un bébé, il fallait qu'elle se repose, etc. Donc avec ses copines, avec ses parentes, elle vivait là. Quelquefois ça durait plusieurs mois, des mois, et c'est arrivé que c'était permanent. Donc vous voyez, cette structure-là, c'était présent partout. Et c'est la plupart de ces femmes étaient des épouses de chevaliers, des épouses de seigneurs. Faut pas s'imaginer les chevaliers à la Raymond VII ou vous voyez, c'était des gars qui tiraient le diable par la queue parce qu'ils étaient à moitié fauchés à cause à la fois de la guerre et puis à cause surtout des partages, des héritages et qui dans le Midi à cause des disons des restes de législation du temps des Visigoths, on partageait entre les différents enfants l'héritage. Donc chaque fois, s'il devenait de plus en plus petit, ce qui obligeait les gens à se battre entre eux pour l'agrandir. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Et ces femmes-là, pour ce qu'est-ce qu'elle faisait? Mais elle, comme toutes, elle faisait du tissage, elle faisait la cuisine, etc., etc. Et puis elle parlait entre elles, elles échangeaient. L'échange de la parole était fondamental. Et cet échange, les gens ordinaires disent, elle bavarde. Elle bavarde. Non, elle bavarde pas. Elle échange ce qui fait leur richesse intérieure. Et comme cela, elle crée une richesse commune à ces quelques femmes. Or, de quoi parle-t-elle? Mais de la vie qui est autour d'elle. Et notamment, de la pression, des embêtements que fait le curé de la paroisse, le curé du village, pas que le curé bien sûr, mais que l'Église fait peser sur elle et sur l'éducation, sur la vie de leurs enfants, etc., parce que ça ne correspond pas à l'idéal qu'elles ont. Cette énergie, cette vie, disons spirituelle, ce sentiment de cette envie de progresser, de vivre autrement, etc., qui est à l'intérieur d'elles, eh bien, elles ont envie de le faire grandir, et elles se heurtent à un pouvoir, une pression, que nous on la connaît maintenant, comme on sait c'est la pression de l'Église, de l'Inquisition contre les hérétiques, mais à l'époque, bon, mais c'était vécu plus simplement. Mais si je voulais résumer ça avec un mot d'actualité d'aujourd'hui, ben je dirais qu'elles veulent continuer de danser ensemble pour rappeler quelque chose que en ce moment est vital. Mais oui, on veut toujours continuer, on veut danser encore. On veut pas s'arrêter. On veut laisser la force qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous et à l'intérieur de la petite communauté qu'on forme, on veut la faire progresser. Et en face, boum, on se retrouve évidemment ces femmes du temps de Guillaume Donadieu, elles n'avaient pas les CRS, mais c'était à peu près pareil. Hein. Elles avaient les croisés du Nord qui étaient là, et ça pouvait les amener jusqu'au bûcher. Donc c'était pas la joie. Alors vous voyez, il faut se rendre compte que ces groupes de femmes, elles avaient besoin non seulement de survivre, de continuer à vivre, mais de se relier entre elles. Pour se donner des coups de main, pour passer, ben, comme nous ici, comme nous aujourd'hui tout le temps, une sorte de solidarité, ou une vraie solidarité, et en même temps, elles avaient besoin d'approfondir ces idées qu'elles avaient en tête, qu'est-ce que ça veut dire, de rêver à Jésus-Christ, de rêver à Dieu, au jugement dernier, enfin des choses, et quand la mort arrive, eh bien, qu'est-ce que les derniers mots qu'on va dire à la grand-mère, allez, tu vas rencontrer Dieu, il va te pardonner tes péchés, t'en fais pas, enfin, vous voyez, comment on fait, on se console comme on peut, quoi, et voilà, elles avaient besoin d'être aidées, et pour cela, elles avaient la chance C'était pas une chance, c'est normal dans toute vie communautaire. Et elles avaient la chance d'avoir des hommes, quelquefois des femmes, qui se consacraient plus que d'autres au soutien, à la réflexion, à l'étude et au soutien de ces petits groupes de femmes qui se rassemblaient de temps en temps. Et donc, ces hommes-là venaient quelquefois, on les appelait les bons hommes, l'Inquisition les appelait les parfaits. Et évidemment, les parfaits hérétiques, les pires, ça veut dire, les pires, oui, les meneurs. Ils les cherchaient et il fallait qu'ils fassent attention parce qu'ils risquaient gros si on les attrapait. Et il fallait aussi qu'ils se déplacent. Et pour ça, ils avaient besoin d'être aidés. Ils avaient besoin de guides. Ils avaient besoin de gars qui passent leur temps à les amener d'un endroit à un autre, d'une communauté à une autre. Et c'était ça le travail de Guillaume Donadieu. C'est-à-dire que quand un bonhomme devait aller dans telle communauté, à Najac, par exemple, on lui dit, disons, il faut amener un gars qui se trouve à Villefranche de Rouergue, il faut l'amener à Najac. Bon, il n'y a pas d'autoroute, etc. C'est à travers les forêts, à travers les sentiers, et puis en faisant attention, etc. Et donc, c'était son travail. On s'arrête avant de terminer, une minute de plus.
CFM Radio. CFM.
I'm gonna switch on my phone, lock my door and never ever come back. I'm gonna write you a letter so you don't worry with 8 or 9 words on. I'm gonna turn off my television even if I don't have one. I'm gonna make sure my name is nowhere on the networks and that my face is gone. So I'm not gonna take a backpack, I leave all my clothes. I'm gonna give my wallet to the first. My car keys on the table in the house where I used to live. When I was a child I have to go alone, far from the civilization. I can no more stand the world of population. I'm gonna leave into a tree in the middle of the jungle. Wait till the day I will no longer have to struggle. Guess one day I'll wake up in the soft green leaves of the tropical trees and I will hear a noise that I almost forgot and see a still monster with a human on the top.
Corde 2022, Michel Bonnet. Je vais donc terminer cette émission en rappelant ces deux expériences qui sont fondamentales pour l'Occitanie. Du temps de Corde 1222, du temps de la fondation de Corde et du temps de Raymond VII, à la fois cette façon qu'avait Raymond VII de favoriser l'échange pour améliorer la richesse, le bien commun de toute la communauté, à la fois cette structure en quelque sorte, cette habitude qu'il y avait à l'intérieur de l'Occitanie, de ces groupes de 2, 3 femmes un peu plus éduquées que les autres, puisque habituellement c'était les épouses d'un chevalier ou d'un seigneur, d'un petit seigneur, d'un chevalier, donc qui se retrouvaient entre elles pour éduquer leurs enfants, pour se préparer à bâtir le monde autrement. Et là-dedans, l'expérience de Guillaume Donadieu qui nous raconte comment il passait son temps à sa façon à favoriser cet échange, à favoriser cette émergence d'un monde nouveau qui se faisait à travers la volonté du mouvement Qatar. Je pense que il faudra qu'on revienne là-dessus plus en détail. Ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est se dire, ça vaut la peine de voir comment Raymond VII et bien des gens de son époque ont imaginé le bien commun d'une communauté, non pas comme quelque chose qui est donné d'en haut, comme le voulait l'Église, mais quelque chose qui surgit, qui émane de la collectivité, des efforts de la collectivité, des efforts de chacun. Voilà, c'était Corde 2022, Michel Bonnet.